Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, plaidoyer pour les enfants de la République démocratique du Congo. Au moment où les choses semblent prendre un tournant positif, à l'est de la RDC, nous recevons Leila Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, de retour d'une mission de 7 jours dans la région. Pour elle, les récentes avancées militaires avec la reddition du M23 et d'autres groupes armés, ainsi que l'engagement des instances gouvernementales, sont des signes prometteurs qu'il faut appuyer, sans oublier de mettre les enfants au cœur des considérations. Bonne écoute.
D'abord, j'étais très contente de revenir en RDC. C'est un pays dans lequel j'ai passé 4 ans dans les moments les plus difficiles. Et donc, revenir pour voir que les choses évoluent positivement, c'était quelque chose qui m'a beaucoup émue. Je pense qu'il y a un changement positif en RDC. Il y a une évolution qu'il faut appuyer, qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager. Parce que, comme vous le savez, l'Est du pays, c'est une zone qui a connu des conflits depuis très longtemps. Des générations entières n'ont connu que la guerre. Donc, je pense que c'est un processus qui, malgré tout, reste fragile. Il y a eu une victoire militaire sur un groupe armé qui a beaucoup déstabilisé la région, mais ce n'est qu'une victoire militaire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et si je parle de la population, à la fois, j'ai vu une population heureuse qui souriait, ce qui n'était vraiment pas le cas dans les zones de Rutshuru, de Kiwanja, mais à Goma aussi. Mais il y a encore des problèmes, il y a des défis. D'autres zones qui attendent qu'on aille aussi les secourir et les débarrasser de groupes armés qui les mettent sous pression. Il y a bien évidemment, après l'euphorie de la libération, comme dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle zone, il y a après les attentes. Il y a aussi de faire le point sur tout ce qui a été détruit. Et donc, grand défi, et pour les Nations Unies, et pour ceux qui accompagnent le Congo, et bien évidemment, d'abord et avant tout, pour le Congo, pour le gouvernement congolais. Donc, il y a du travail à faire sur le plan militaire. Il y a aussi, bien sûr, le développement, la stabilisation, reconstruire les écoles qui ont été détruites, reconstruire beaucoup de choses.
Alors justement, vous êtes la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés. Comment est-ce que le conflit à l'est de la RDC a affecté les enfants particulièrement ?
L'information majeure, peut-être qu'il passe inaperçue, c'est que dans cette zone, dans l'est du pays, et dans beaucoup d'autres zones, en fait, la population congolaise est très jeune. On nous a dit que les moins de 18 ans arrivent jusqu'à 70% dans certaines zones. Donc, bien évidemment, rien qu'avoir la proportion dans la population, ils sont affectés. Affectés par la guerre, parce que c'est une guerre qui se fait contre les civils et parfois par des civils qui prennent des armes. Mais le pire, c'est qu'il y a une volonté qui nous a été confirmée par les enfants qui sortaient de différents groupes, de recruter systématiquement les enfants. Et on nous a dit que sur les groupes qui se rendent, y compris le M23, le nombre d'enfants est quand même extrêmement élevé, 25 à 30% dans chaque groupe, sans compter ceux qui sont encore dans la forêt. Donc les enfants sont affectés parce qu'ils sont recrutés, parce qu'ils sont utilisés et parce qu'on leur demande de faire le travail le plus insupportable, forcé, c'est du travail forcé, parce qu'ils sont tués, parce qu'ils sont mutilés, parce que leurs écoles sont occupées systématiquement, sont détruites. On nous a parlé de toutes les écoles des zones où il y a ce conflit. Les bancs ont été utilisés pour le bois, les écoles ont été pillées, occupées, détruites. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre. Donc les enfants sont affectés dans leur chair, sont affectés dans leur environnement et sont menacés pour leur futur. Puisqu'il n'y a pas l'école, puisqu'ils sont déplacés, les enfants qui même ont fui des groupes armés, ils ont peur de revenir chez eux.
Oh lélé, Moliba Makassi.
Oh lélé, Moliba Makassi.
Justement, alors maintenant qu'il y a ce début de reddition, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'ils sont accueillis? Comment est-ce qu'ils sont perçus? Et quelles sont les prochaines étapes pour ces enfants?
La visite était conjointement partout où on a été, la MONUSCO mais aussi l'UNICEF. Parce que le travail commence aujourd'hui pour reconstruire ces vies détruites, pour permettre à ces enfants de revenir dans leur milieu, il y a beaucoup à faire. Il y a d'abord beaucoup à faire sur eux, parce qu'ils ont beaucoup souffert et ils n'ont connu que la violence et ils ont subi la violence dans leur chair. Donc il y a un travail à faire sur eux, il y a un travail à faire sur leur environnement pour leur permettre de pouvoir reprendre les chemins de l'école, de pouvoir avoir un travail, d'apprendre un métier, c'est ce qu'ils nous disaient. Mais il y a un travail à faire sur les communautés, sur les familles, parce que les communautés qui ont subi les groupes armés, ils associent les enfants avec ces groupes. Parfois, les enfants ont été forcés de commettre des atrocités ou des violences dans leur village, sur leur propre famille, parce que c'était comme ça que les chefs opéraient pour être sûrs que celui qu'ils recrutent ne revient pas à la maison et ne sera pas protégé par la communauté. Donc il y a un travail à faire avec les chefs coutumiers, avec les chefs religieux, avec les autorités provinciales. Tout ça est nécessaire. Effort de développement, effort de stabilisation, de reconstruction, effort de réconciliation, effort de faire comprendre à tout le monde ces enfants sont victimes. Mais pour que cela se fasse, il faut que la justice se fasse aussi. Toutes les personnes qui ont subi ça nous ont dit qu'ils veulent que ceux qui leur ont fait ça payent. Ils veulent qu'ils soient jugés. Et le gouvernement le dit, on ne veut plus de recruteurs d'enfants, de ceux qui commettent les viols dans notre armée, et on veut qu'ils soient jugés. Mais ça, il faut qu'on ait aussi là les accompagner pour être sûr que ça se fasse correctement et contre tout le monde.
Par rapport aux avancées que l'on constate sur le terrain, ce qu'on peut voir au niveau des reddictions et du moment que vit l'Est du Congo en ce moment, comment est-ce que cela s'accorde justement avec le plan d'action qui a été signé avec le gouvernement congolais par rapport à la fin du recrutement des enfants ?
Justement, une de nos objectifs lorsqu'on s'est rendu, on a choisi cette opportunité justement en RDC, c'est aussi de faire l'évaluation d'une année. Parce que comme vous le savez, la RDC, les FARDC, l'armée congolaise est listée pour recrutement d'enfants. C'est quelque chose qui a été pendant longtemps collé au FARDC. Depuis une année, donc en octobre 2012, ils ont signé le plan d'action et depuis, on a travaillé avec eux, et particulièrement la mission et l'UNICEF, pour mettre fin à ce recrutement. On l'avait fait dans le cadre de l'appui que la MONUSCO donnait au FARDC pour nous assurer qu'on n'appuie pas les recruteurs d'enfants. Et ça a créé une dynamique où les FARDC avaient accepté de sortir systématiquement les enfants qui sont dans les rangs des FARDC. Depuis une année, le travail a beaucoup avancé. Donc, on est arrivé, la protection de l'enfant de la mission a systématiquement, que ce soit dans le cadre d'un recrutement ou dans le cadre d'intégration de groupes armés dans les FARDC, à faire une vérification d'âge et de sortir les enfants de façon systématique avant le recrutement, avant l'intégration. Donc ça, c'est bien avancé et je suis partie pour justement pousser sur les défis qui restent.
Alors, quels sont les défis qui restent justement ?
Les défis qui restent, c'est que, les enfants qui sont dans les groupes armés, et le gouvernement l'a accepté et c'est dans le plan d'action, ils sont des victimes. On ne doit pas les assimiler à des rebelles qu'on doit punir ou qu'on doit sanctionner. Les enfants, on a eu des informations confirmées, répétées, sur le terrain, ils sont détenus et maltraités parfois. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler davantage. On a expliqué aux autorités qu'il faut avoir le mécanisme qui existe au niveau central de coopération avec la mission, de l'avoir aussi au niveau provincial et au niveau local, et d'avoir des points focaux qui sont l'interlocuteur de la mission pour s'assurer que si des enfants sont arrêtés, tout de suite, ils doivent être libérés et les commandants doivent être informés qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc ça, c'est un grand défi. Certains enfants ont été même condamnés pour rébellion, donc il faut qu'on travaille sur ça. La deuxième chose, c'est aussi non seulement de sortir les enfants, mais de faire en sorte que ces enfants ne soient pas réunifiés dans des conditions qui les mettent en danger, où ils seront re-recrutés, où ils seront harcelés ou maltraités dans leur village. Comme j'ai dit tout à l'heure, les filles, par exemple, elles avaient peur de revenir dans leur village parce qu'elles avaient peur des FARDC. Donc ça, c'est un problème qu'il faudrait travailler. Ce n'est pas une volonté du gouvernement, on en est absolument conscient, mais il faut s'assurer que les unités, les troupes sur le terrain respectent les engagements des autorités.
C'est un grand moment pour la RDC, vous y croyez? On est en train de tourner la page?
On est en train de maturer sur comment on doit adresser les problèmes. Dire qu'on tourne la page est trop tôt, parce qu'il y a eu, par le passé, des victoires et puis des défaites et un retour à case de départ. Donc nous, on veut que ces choses-là cessent. On a aujourd'hui, un changement dans la posture du gouvernement, des autorités, de l'armée qui répond mieux. On a aussi les Nations Unies qui appuient avec, pour la première fois, une force robuste offensive de maintien de la paix, la brigade intégrée. Et on a vu comment le force commander et l'adjoint du commandant de la force sont très clairs, et aussi le leadership de la MONUSCO est très clair sur le fait que les groupes armés doivent se rendre ou ils seront défaits par la force. Ça donne aussi du courage aux Congolais qui sont appuyés, qu'il n'y a pas un complot, parce que pendant des années, il y a eu aussi cette théorie de complot où la communauté internationale est souvent accusée. Aujourd'hui, les Congolais, là où on a été, applaudissent la brigade, la MONUSCO, les leaderships. Donc, il y a une communion qu'il faut continuer à renforcer. Il y a un travail que Mary Robinson, en tant qu'envoyée spéciale, avec le SRJ et les autorités des pays voisins et du Congo, pour aussi construire la paix dans la région et pas seulement à l'intérieur du Congo, parce qu'il y a un élément d'extranéité dans le conflit au Congo. Il y a la position très claire, tranchée, forte du Conseil de sécurité pour dire « personne n'a le droit de déstabiliser le Congo ». Message très fort aux pays voisins, message très fort aux groupes armés, aux criminels, et aussi un message très fort aux autorités pour leur dire « vous avez une responsabilité et vous devez l'assumer ». Donc je pense qu'on est dans un moment très fort, très positif, mais il ne faut pas baisser la garde et il ne faut pas oublier les enfants. Si je me suis déplacée, si je suis partie dans ce moment-là particulièrement, c'est parce que je voulais dire à chacun « hey, les enfants, ils sont affectés. Il ne faut pas maintenant discuter qu'avec les adultes. Il ne faut pas justement s'occuper que des problèmes des adultes. Il faut s'occuper des écoles. Il faut s'occuper de la réinsertion. Il faut protéger les enfants. Et il faut sortir ceux qui sont encore dans le bush. » On a été à Beni. 800 civils ont été enlevés par l'ADF, Nalu. Et parmi ces 800, 400 sont des enfants.
Vous avez rencontré les enfants, ces enfants qui forment jusqu'à 70% de la population, qui sont jusqu'à 50% de ceux qui sont recrutés de force. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Qu'est-ce qu'ils veulent, les enfants?
J'ai été reçue avec des panneaux, la paix. Nous voulons la paix. Et les femmes, et les petites filles, et les enfants, tout le monde demandait la paix. Les enfants sont clairs sur ce qu'ils veulent. On était dans une salle où il y avait des filles qui sortaient de tous les groupes armés. Et elles étaient de différentes tribus et des tribus qui se battaient. Et il y avait 3 filles qui insistaient, je veux reprendre l'école. Aidez-moi à revenir à l'école. D'autres qui ont des bébés, parce qu'elles reviennent souvent de la forêt avec des bébés à l'âge de 14-15 ans. Et elles ne savent pas quoi faire avec ça. Et elles demandent à ce que la communauté les accepte. Et elles demandent un travail. Elles demandent à apprendre un métier. Je veux apprendre la couture. Je veux apprendre quelque chose parce que je veux élever mon enfant. C'est ça ce que demandent les enfants. C'est comme tous les enfants du monde. Ils demandent la paix, ils demandent l'école, ils demandent le travail, ils demandent la protection. Et nous sommes là et nous avons la responsabilité de répondre à leurs demandes.
Et c'est avec l'engagement et les propos d'espoir de Leïla Zeroubi que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine aux enfants de la RDC. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration de Rebecca Mudio et Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies par podcast et sur Internet en tapant radio.un.org/fr.
Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.